Bonjour, moi c'est Loïc Bartolini et je suis aventurier, comédien, photographe, mais suisse. Après 6 années de voyage, j'ai créé le spectacle Photographe en liberté, dans lequel je raconte mes galères à travers 12 pays en 243 photos. C'est un peu comme une soirée diapo, mais réussie. Vous pouvez d'ailleurs le voir à partir du 10 janvier, tous les lundis à 20h au théâtre Le Métropole à Paris. Mais aujourd'hui, c'est au tour de mes amis humoristes, youtubeurs ou réalisateurs de raconter leurs galères. Et croyez-moi, ils en ont. Bienvenue dans Portrait de voyageur.
Mesdames et messieurs, les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Dégagez.
Quand la consigne s'illumine, retournez à votre siège et bouclez-la.
Nous vous invitons à ranger votre bébé dans les coffres ou sous votre siège.
Rangez votre sac sous le siège devant vous. S'il est trop gros, mettez-le sur votre nez et votre bouche.
In the event of a water evacuation, we wish you to access a life jacket.
En cas de panne d'électricité, nous vous souhaitons un agréable vol.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de voyageurs. Aujourd'hui, mon invité est un petit génie de la musique, ça c'est moi qui l'ai défini. À 14 ans, il compose déjà et quand je dis compose, c'est pas jouer 3 accords de Jeux interdits autour du feu, non, il fait des vraies compositions. Si bien qu'aujourd'hui, quand il écrit une chanson, tu peux être sûr de la garder dans la tête pendant au moins minimum toute la journée, voire une année. Si je vous dis le café, la tristitude et j'en passe, hein. Monsieur peut cocher la case Zénith de Paris sur sa to-do list, chroniqueur à la radio aussi. Et pour le reste, bah, ce que je trouve génial, c'est qu'il reste accessible, sans doute grâce à son passé d'animateur. Mon invité aime faire rire et le tout en musique. Et surtout, son dernier album parle de voyage et s'appelle L'Aventure. Donc on était fait pour se rencontrer. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Old Olaf.
C'est un triomphe.
Si tu as vu.
Oh, oh là c'est là. La première fois que je joue dans un grand studio comme ça, je suis un peu ému et impressionné.
Avec finalement juste ton attaché de presse qui est sur son téléphone derrière.
Mais elle crie et elle applaudit comme 300 personnes.
Oui, et ça c'est beau, ça c'est beau. Merci d'être là, Old Olaf, je suis
merci
ravi.
Merci Loïc.
Il y a une information que je n'ai pas donnée, mais tu es aussi très bon joueur de foot.
Mais paraît-il.
On a eu l'occasion de faire quelques parties à l'époque du field, il y a très longtemps.
Oui, mais alors si je me réfère à la partie que j'ai faite hier, je pense que le temps a une emprise maléfique sur mon jeu et sur ma résistance. Je peux à peine marcher au moment où je te parle.
Ah merde.
là, je ne fais pas, ne joue pas en ma faveur ni mon hygiène de vie.
C'est vrai que je garde un souvenir d'il y a déjà peut-être une petite dizaine d'années. Donc,
oui, tout à fait.
On a mûri. Pour ne pas dire vieilli.
Ouais, c'est ça. Plus, on avait joué par, il faut le dire, 45 degrés de chaleur, je crois.
Oui, mais on savait s'éclater à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, tu vois, on joue même dans des salles climatisées, puis on n'est pas bien. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? C'était le podcast des vieux cons. Allez, à bientôt. J'ai fait une petite description de toi. Mais ça, c'était pour les gens qui ne te connaissent pas. Après, j'aime bien que l'invité donne une petite information sur lui pour les gens qui le connaissent déjà, mais une information insolite ou quelque chose en tout cas qu'ils ignorent. Qu'est-ce que tu veux nous dire ?
Écoute, que je suis né, parce que tu dis en région parisienne, je peux clarifier un peu la situation. Je suis né à Paris, 14e, mais je n'ai jamais habité à Paris. Voilà, je suis allé quasiment tous les jours, et j'y vais, on peut dire, tous les jours pour travailler, rencontrer, voir des amis, mais je n'ai jamais habité à Paris. J'ai toujours vécu en banlieue sud. J'ai passé une grosse partie de mon enfance à Cachan, et ensuite, je suis allé beaucoup à Sceaux, voilà. Parce que j'ai fait le lycée à Sceaux, au lycée La Canale. Et comme pas mal d'illustres personnes, hein, on parle de Julien Clerc, Jacques Chaban-Delmas. J'étais la même promo que Jacques Chaban-Delmas. Ouais, tout à fait. Non, il y a pas mal de gens qui se passent par là. Et moi, je suis resté beaucoup là-bas, tu vois, avec beaucoup d'amis qui viennent, parce que j'étais animateur à l'aumônerie de Sceaux, figure-toi. Voilà. J'ai été animateur là-dedans. Et qui fait que j'ai aujourd'hui toujours des musiques que j'ai écrites qui sont jouées à l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, même je crois surtout Sceaux, il y a toujours des chansons de moi, Cato, qui sont jouées dans les églises. Ben oui, tout à fait.
Vraiment.
Vraiment.
Mais vraiment, et tendance bon, Cato ou...
et on parle de Sanctus, on parle de choses comme ça, tu vois, de vraies chansons qui sont qui ponctuent la messe, enfin, des choses qui animent la messe, et puis des chansons de fin, des trucs comme ça. Donc je suis surpris de temps en temps quand je viens pour des mariages ou des baptêmes d'enfants amis à moi.
C'est génial.
À moi, et puis bah voilà, je me retrouve à entendre des chansons de moi dans la messe, ça me fait rigoler.
Est-ce que du coup comment ça se passe? Est-ce qu'ils t'annoncent et disaient nous jouons cet illustre titre?
Bah il y a évidemment des jingles comme dans ton émission, tu vois, il y a des jingles avant pour annoncer une chanson d'Olaf. Et là, il y a le, ouais, non, il y a, y a la croix qui s'est
levée. L'adresse de cette église, tout le monde aurait envie d'aller là-bas.
Oh,
après,
bah, tu vas à Sceaux, Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Alors, par contre, est-ce que ça tombera sur le jour où,
ah oui, vous utilisez.
Parce qu'il y a quand même un choix de titre, donc c'est pas toujours le cas, mais enfin, voilà, il y a des chances de pouvoir tomber là-dessus.
Et sinon, ouais, la chanson des JMJ, du coup, il la rechante aussi.
De temps elle vient de cette époque-là, mais non, il la chante pas. Je pense qu'il y a un petit côté autodérision qui n'y a pas pendant les messes.
Qui ne marche pas. D'accord, très bien.
Tu vois, c'est une information un peu insolite.
Mais c'est même plusieurs, en fait. C'est ça,
ça va être voyager en région parisienne, donc en plus.
Mais pourtant, dans ta bio, c'est quand même écrit, tu vois, né en région parisienne. Donc, le fait d'apprendre que déjà le début de ta bio est fausse parce que tu es né à Paris, je crois qu'à un moment.
Oh, bah, c'est la région parisienne, c'est pas mentir, c'est pas précis.
Oui, non,
mais
c'est
pas mentir.
C'est vrai. Mais c'est qu'à un moment, il dit, du coup, pour sa carrière, il monte à Paris. Tu vois, déjà, je trouve ça drôle quand on voit.
Mais ça a été un peu le cas, vraiment. Je le ressens totalement comme ça parce que, si tu veux, je savais très bien que je voulais être chanteur. Humoriste, je m'y attendais moins. c'était vraiment la musique, moi, qui me faisait avancer. Et j'ai attendu, comme j'étais animateur, voilà, comme je t'ai dit, je prenais mon temps. J'avais besoin de, je pense, me remplir de plein de choses, de me sentir solide. Et j'ai vraiment pris ma guitare et ma voiture ou le RER pour vraiment monter à Paris à 24 ans, quoi, en gros.
Ah oui, tu vois, d'accord.
Alors que je savais que je voulais faire ça. J'avais aucun doute sur ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Et pourtant, il m'a fallu le temps. J'écrivais des chansons, j'avais un groupe, mais j'étais pas prêt. Il y avait des choses plus importantes à vivre et je regrette absolument pas de les avoir vécues, ouais.
Oui, ça, même pour les jeunes artistes qui nous écoutent, je crois que c'est bien d'avoir d'autres vies aussi à côté avant de vouloir faire celle d'artiste. Ça
ouais.
permet de se nourrir, en tout cas.
Alors, c'est sûr que moi, j'ai un parcours au ralenti parce que j'ai toujours eu un... Ouais, j'ai fait chaque petite étape. Ça ne fait que monter et c'est chouette, mais sauf que... Le temps passe et je n'aurai jamais, je pense, la place de jeune premier dans la chanson que j'aurais peut-être souhaité. À un moment, j'ai la chance d'avoir une place certainement plus solide et de pouvoir savoir que dans 5 ans, 10 ans, je serai toujours là à faire des choses. Maintenant, c'est sûr que le parcours, je l'ai gravi par les petits cabarets, les petites salles, puis les plus grandes, puis les... commencer à rentrer dans les médias, il y a pas eu le flash, la transcendance du boom de oh c'est quoi ce type, c'est quoi cette nouvelle révélation, j'ai jamais eu ce côté-là. Ça me ferait rire d'ailleurs d'avoir un jour une victoire de la musique de la découverte de l'année. La révélation musicale mais en tout cas j'entre voilà par une petite porte, je suis là et je continue de grandir et d'avancer, c'est assez sain, mais il faut être patient, il faut être courageux. C'est pour ça que je suis content d'avoir pris le temps avant.
Mais ça m'évoque une question. Alors pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans la thématique du voyage, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce qu'on a vraiment aussi cette course à une sorte de réussite imaginée, de se dire que tu vois en tant que... Enfin, bon, t'as fait des scènes prestigieuses, t'as des albums qui ont super bien marché, t'as des titres qui ont marqué, que tout le monde s'est mis à chanter. Mais malgré ça, tu vois, tu parles d'une sorte de réussite modérée, lente. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi où on n'est peut-être jamais satisfait et on se voile la face sur l'objectif?
J'essaie régulièrement de faire un petit bilan de là où j'en suis, la fierté, mais ça passe par des petits détails à des moments où tu t'y attends pas. Tu apprends ce qu'un tel a dit sur toi, tu dans le métro, t'es interpellé par quelqu'un qui dit juste merci, merci pour ce que vous faites, et tu dis juste ce truc-là te regonfle et te fait avancer. Maintenant, chaque concert est un nouveau défi, chaque spectacle, quand tu fais un nouveau spectacle, tu repars à zéro, donc tu dis, ah oh là là, j'ai plus mes automatismes, pour qu'est-ce qui m'a pris, enfin, tu vois,
c'est une remise en danger totale.
Totale. Et surtout, c'est quand tu vois, j'ai eu la chance, j'ai jamais été un gros vendeur de disques, tu vois, bon. Jamais, mais j'ai des chansons qui, je pense, resteront plus dans l'imaginaire et dans la vie des gens. Très sincèrement, je pense ça, qui ont marqué, je pense à La Tristitude, Le Café, Nathalie, Mon Amour du GMG dont tu parlais. Il y a des chansons qui, je pense, passeront les années.
Ouais.
En revanche, il y a des gens qui ont fait des numéros 1 du top 50 et les chansons sont totalement oubliées des années après. Ce ne sont pas des chansons qui ont vécu J'ai profité d'Internet un certain moment. J'ai jamais été un vendeur de disques. J'ai été quelqu'un de terrain. Ça a permis de remplir les salles et de voir que les spectacles, les gens qui viennent voir les spectacles sont souvent assez estomaqués parce qu'ils s'attendent pas à ça. A fortiori, les gens qui m'ont vu sous forme de chroniqueur radio, on s'attend à un mec tout seul avec sa guitare et il voit des spectacles.
Ouais, un vrai concert avec
quand
des
vrais parties. Quand j'y ai c'est pas... c'est pas
tu voles à un moment
mais c'est pas Muse mais au sens on voit un vrai spectacle, des un truc qui mélange le théâtre, la l'humour, la chanson évidemment, on s'attend à en rigoler tout le temps, pas du tout, il y a des moments où on est un peu saisi ému. Ah ouais. Donc il y a c'est un petit voyage à l'intérieur, mais j'ai jamais pu profiter, par exemple si on parle de sous, tu vois, d'un truc, le mec a vendu un disque beaucoup et qui peut se dire ok, là je peux prendre du temps, je peux réfléchir, voir la suite, j'ai 2 ans devant moi où je peux poser. J'ai jamais eu cette chance là il a toujours fallu que je me réinvente tout le temps en permanence, que je me batte pour rester là. J'ai eu le courage de le faire et je suis aidé là dedans parce que des gens me font confiance et j'ai une équipe qui est là derrière moi, et tu vois Aline qui est derrière en fait partie, tu vois, des gens qui croient et qui me soutiennent, et voilà, et c'est super, le musicien.
Mais c'est ça qui fait l'artiste que tu es aujourd'hui aussi.
Certainement, et j'ai cette confiance là, mais c'est aussi, quand je vois ça, je suis content, mais il y a une condamnation à dire t'es quand même en dehors des circuits. Il y a un moment tu pourrais dire je sors une chanson, pourquoi elle passerait pas à la radio, pourquoi je serais pas invité dans des émissions, lui ouais. C'est un peu un artiste humoristique, et alors.
On aime bien les cases en France. Totalement. Et dès que t'es entre plusieurs cases.
Je suis la définition de la case en France.
Bon, lui, alors, on a un tiers là. En fait, on crée nos propres cases. Et puis ça, c'est peut-être un peu plus galère pour certaines personnes. Tu m'as fait une très belle transition pour nous emmener vers le voyage, parce qu'aujourd'hui, tu vois, là, tu as fait même un très joli résumé, je pense, de ta vie artistique, mais on ignore tout du au-delà voyageur. Qui est-il? Que devient-il? Et du coup, aujourd'hui, n'hésite pas même à faire des liens avec, parce qu'on va beaucoup parler, je pense, aussi de tournées, de concerts, puisque c'est ça qui nous fait aussi beaucoup voyager en tant qu'artiste. Mais déjà, toi, quelle est ta définition du voyage?
Je crois que peut-être la définition que je donnerais est celle du titre de l'album et qui compte pour moi, c'est l'aventure. L'aventure, parce que il y a un vrai voyage quand il y a un petit danger, quand il y a un petit une rencontre, en fait, un bouleversement quelconque. Je ne considère pas le voyage comme aller se mettre une semaine en club à Punta Cana. C'est juste t'as changé d'endroit, mais t'as aucune rencontre. C'est pas ça. C'est j'attends du voyage, et c'est pour ça qu'il y a pas besoin qu'il soit à l'autre bout de la planète. Ouais. Il y a des voyages à 100 km dans une campagne profonde en France, de Paris. Quand je dis campagne profonde, de gens qui ont une vraie réalité différente de la nôtre et qui vont pouvoir te bouleverser.
Ouais.
Peut-être encore plus en te disant mais quoi, mais enfin c'est à la porte de chez moi et je ne connais pas ces gens, je connais pas ce mode de vie, des gens qui ont une autre réalité, enfin des enjeux qui me dépassent complètement. Pour moi, l'enjeu d'un Parisien qui se respecte, c'est d'être à l'heure, de prendre le métro comme ça, d'être rentré dans un métro blindé, de revenir, de chercher les enfants à l'école, de faire à manger, des machins, de dormir et de refaire ça machin, et puis surtout au week-end d'aller se reposer, aller à la mer, faire quelque chose, tu vois, mais avec un rythme, de voir qu'à la porte de chez toi déjà il y a des mondes que tu n'imagines pas. Pour moi, le voyage il commence là. Et il est évident qu'ensuite, aller franchir une mer déjà, juste pour se retrouver en Angleterre, franchir une frontière pour changer de langue, changer d'habitude culinaire, changer de mode de pensée. Et là, t'as pas besoin d'aller bien loin.
Oui.
Tu vois, tu passes une frontière dans n'importe quel sens, tu as des différences qui sont marquantes, quoi, vraiment. Et alors autant, tu vas pouvoir aller en Belgique, où on n'est pas très très loin. Enfin, je veux dire, on est vraiment.
Et pourtant, t'as déjà des belles différences.
Et pourtant, t'as de belles différences, t'as un état d'esprit différent. Et quand après, tu t'éloignes à chaque fois, tu découvres des choses totalement incroyables qui te sidèrent, des petites particularité. Après, ce que je n'aime pas du tout, c'est les gens qui définissent l'ensemble du peuple du voyage qu'ils ont fait. Par exemple, il y a quelqu'un qui va en Inde. Alors, les Indiens, ils sont comme ça. Tac.
Mais le cliché aujourd'hui.
T'en as vu 7.
Ouais.
T'as vu 7 Indiens sur 1 milliard 300 millions, je sais pas combien. Mais d'où tu vas définir les Indiens et l'Inde et ce qu'on pense, est-ce que machin, tu vois, c'est-à-dire que.
Mais on est pétri par des clichés, on est, et il y a ce truc aussi, c'est un des trucs que je mets en avant dans mon spectacle, c'est juste de se dire que très souvent, on part 3 semaines dans un lieu, tu vois, quand tu vas en Inde, l'Inde, c'est gigantesque. Il y a tellement de cultures différentes. Déjà, nous, tu vas en France,
ça,
tu vois, c'est ce que tu disais.
Des langues différentes, ouais. En Inde, des religions différentes, tu vois, tu te retrouves à devoir. Et évidemment, quand tu vas là, tu te dis, bah, dans ma vie, je vais pas faire 2 millions de voyages. Je pense que toi, tu voyages plus que la moyenne. Moi, j'ai pas fait un nombre de voyages extraordinaire. J'ai moins que ce que je voudrais.
Du coup, tu parles de voyage physique ou de bouleversement? Parce que comme tu disais que le voyage était un bouleversement, je pense que.
De voyage, en tout cas, j'ai pas fait de voyage énormément à l'étranger. Voilà.
Ouais.
J'ai pas beaucoup voyagé à l'étranger. En revanche, en France, là, Dieu sait que j'ai fait des voyages. Je suis ma vie sur la route. Et j'essaie de profiter de ce temps de voyage pour découvrir un peu. Je peux te parler un peu des villes, je peux te parler un peu des choses, des particularités des endroits, voire des modes de pensée. Et ce qui me fait dire, d'ailleurs, je pense qu'il y a bien plus de différence entre un Parisien et un Marseillais qu'entre un Parisien et un Bruxellois. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être, voir qu'un Parisien et un Londonien. Vraiment, il faut être clair là-dessus. Et et surtout, les gens qui sont allés en club, je sais pas, Cuba, c'est bon, je connais Cuba.
Tu sais qu'en plus, j'ai toujours un petit buzz qui fait genre. Et ça, c'est je te le remets. Tiens, voilà. Et ça, c'est à chaque fois que quelqu'un vient ici et me dit j'ai fait tel pays.
Ah ouais.
C'est la seule. J'essaye d'être dans la plus grande bienveillance qui soit, mais ça, c'est la seule censure que
Tu vois,
non, je suis désolé. C'est pas possible, je peux pas laisser passer
on
ça.
On se rapproche.
Ouais.
Et je veux bien croire, je sais pas, tu vois, si Théodore Monod te dit j'ai fait la Mauritanie, tu veux bien l'écouter. Tu vois, ouais, c'est vrai que t'as passé 50 ans de ta vie à la repenter dans tous les sens. Je veux bien croire que tu peux nous parler de la culture.
Encore que, tu vois, encore dire que j'ai fait, pour moi, il y a quelque chose tellement où, genre, ta présence a changé le pays.
Oui. C'est vrai que
le tourisme de masse en Thaïlande, par exemple, la présence des touristes a peut-être changé le pays, mais en réalité.
Certainement.
Tu viens juste, enfin, c'est plutôt toi d'ailleurs.
Ouais.
Ce serait plus joli de dire, alors, la Thaïlande m'a fait, tu vois, je pense que là, ce serait plus joli dans ce
alors,
sens-là.
Alors, dans ta phrase, la Thaïlande m'a fait, on a une image assez sale, je suis désolé.
Voilà, ne parlons pas de la Thaïlande. Mais à nouveau, les clichés sur la Thaïlande, pardon, il n'y a pas que ça.
Je parlais vraiment des Thaïlandais qui sont à Paris et des salons de massage. Vraiment.
Oui. Ah merde.
C'est à ça que je pensais.
Après cette belle définition du voyage, je vais te poser des petites questions. C'est souvent des QCM et tu réponds, tu as le droit de développer. Hein. Il n'y a aucune règle dans ce podcast, c'est ça qui est cool.
Quelle liberté,
tu vois,
c'est ça le voyage.
C'est ça le voyage, tu vois. On va tout changer la trame, spécialement pour toi aujourd'hui. Allez, c'est faux, évidemment, je vais garder ma trame habituelle. Parce que c'est ça aussi le voyage, mentir sur ce qu'on fait. alors déjà, tu voyages à quelle fréquence, beaucoup ou peu?
Non, assez peu. Trop peu, à mon goût. Sauf, encore une fois, pour voyager pour le boulot. Et Dieu sait que je rencontre des gens. Je vois vraiment, mais on parle de beaucoup de France, quoi, ou au moins de pays francophones.
Du coup, parce que la question d'après, c'est plutôt pro ou perso. Donc, tu as une majorité de tes voyages qui sont pour le pro.
Ah oh, ouais, à 95%.
Et ça t'emmène partout en France, mais aussi un peu tous les pays francophones.
Ouais, et là, j'ai eu la chance, en effet, pour l'autre spectacle, pas Olde Laf, on a voyagé un petit peu. Mais c'est vrai qu'au final, quand on mélange les deux, j'ai eu la chance d'aller au Québec, au Maroc. J'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire récemment. On a fait, bien sûr, Belgique, Suisse. On a fait les dom-toms, on est allé à La Réunion.
Attention, parce que du coup, t'as dit on a fait.
Ouais, c'est vrai que j'ai dit on a fait. Alors, t'as le droit, vas-y, mets-moi le buzz, ça me rassurer, parce que sinon, je ne veux pas être.
On n'aime pas, ça fait mal.
Ouais, t'as tout à fait raison. Mais j'ai fait donc les. Non, c'est ça. Il faut le mettre 10 fois. Non, non, j'ai eu la chance d'aller donc à.
Parce qu'on fait une tournée, c'est pour ça en fait. Dans la tête, dans notre tête à nous, on fait une tournée, donc.
C'est vrai. Là, je considérais pas avoir découvert entièrement ces lieux ou ces îles, ces pays. Et en tout cas, j'ai eu la chance d'aller donc à Saint-Martin des Antilles. On a fait Tahiti plusieurs fois. La Réunion et donc il y a un panel quasiment qui prend le. J'ai pas eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie.
Ah, ça viendra.
Et ça, j'aurais pu dire vraiment là, j'ai fait un tour complet de la planète grâce à la musique et ça, c'est pas mal.
Ça, c'est quand même stylé. On a des beaux métiers pour ça qui permettent vraiment de bouger, de voyager. Ouais. Mais est-ce que t'as le temps de profiter ?
Ah bah quand on va dans ces endroits-là, oui.
Tu prends moins de temps quand tu vas à Melun que quand tu vas en.
Alors, même quand je vais à Melun, figure-toi que je vais visiter Melun dans la mesure du possible pour considérer qu'il faut plus retourner à Melun.
J'ai vu, bon, c'était pas ouf.
En revanche, on a la chance quand on va jouer, toi à Tahiti, on a 2-3 concerts, mais on fait vraiment le. Tout ce qu'on peut pour essayer d'aller voir, d'aller se balader à l'intérieur de l'île, sur les côtes, en face évidemment. Et c'est nécessaire. La Réunion, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un vrai beau panel. On y était 15 jours, on a fait...
C'était pour le festival Comédie ou pas du
tout ?
Non,
pas du tout. Il y avait quelques dates qui étaient organisées par un réunionnais qui s'appelle King Sam, qui fait pas mal d'impro. On était invité avec d'autres amis qui sont Giro et Stotts. Avec Al, et on a fait un peu de Montana, on a fait un peu de soirée d'impro, parce que moi j'en fais de temps en temps, et puis là on est là, l'occasion d'aller voir plusieurs villes, de rencontrer un peu des gens, de parler, de voir quelqu'un se faire bouffer par un requin.
tu peux pas lancer ça comme ça, sans...
Ben non, mais tu sais, il y a la légende urbaine, évidemment, et ça fonctionne. Pendant qu'on y était, on était sur une des rares plages où on a le droit de se baigner, qui était vraiment pleine ouest, là. Le nom m'échappe, mais en tout cas,
Saint-Gilles ou non ?
Oui, dans ce coin-là. Et on avait la chance d'être logé dans une baraque vraiment merveilleuse à quelques pas. Donc, on allait à la plage. Mais c'était un des 20 km de plage, si tu veux. Sur 220 km de côte, la Réunion, tu as 20 km sur lequel tu as le droit de te baigner. Mais
les filets à requins.
Ouais, c'est exactement. Mais attention, quand même, il y a un peu de houle. Il y a des vagues qui passent par-dessus la barrière. Ah bon, d'accord, mais on se baignait quand même. Et puis, pendant qu'on y était, on va arriver, évidemment, des gendarmes devant un hôtel de luxe qui donne sur la plage. Des gendarmes sont là, directeur de l'hôtel, tu sens, donc on demande qu'est-ce qui se passe ? Non, il n'y a rien.
Rien.
Et puis t'apprends qu'ils ont retrouvé un Écossais qui avait disparu et ils ont retrouvé son bras à l'intérieur. Ils ont reconnu l'alliance sur le bras, c'est important comme détail. Dans un requin.
Soyez mariés quand vous allez nager. C'est plus facile pour l'identification.
Ils ont reconnu dans le vent d'un bras requin. Dans un requin tigre. Mais ce qui m'a intrigué et accablé aussi, c'est dans un. Il était à 7 km le requin. Donc combien il a fallu qu'il pêche ? Parce que à La Réunion, il y a une forme de guerre. Vraiment, ça rigole pas. Quand quelqu'un est mangé, on tue en exemple 50 ou 100 requins.
Ah oui.
En représailles pour que les requins comprennent bien qu'il faut
pas
faire ça.
Parce qu'ils mettent les trophées sur les pics. Hein,
voilà, exactement.
N'entrez pas dans notre territoire.
Et donc, combien de requins il a fallu tuer pour retrouver le bras de ce gars-là ? En tout cas, le fait est que sa femme est venue à La Réunion en voyage et est repartie avec un bout de bras. Et ça existe, et surtout c'est absolument pas médiatisé, il faut surtout pas que ça sache, a fortiori puisque c'est une plage autorisée. Il y a plein de plages où on dit là ça c'est interdit, c'est marqué, il y a des gros panneaux, et voilà donc ça fait passer l'envie d'aller nager loin dans le lagon, parce que c'était vraiment
3.
Dans le lagon que c'est arrivé, hein.
Putain, ah ouais,
et sinon c'est fantastique,
incroyable.
J'ai vu 3 fois le bout du monde à La Réunion. Vraiment, tu te dis, là, t'es au bout du bout, quoi. Et c'est fantastique. Parmi les grands souvenirs, d'abord parce que t'as une beauté vraiment impressionnante qui n'est pas liée qu'aux plages, entre guillemets, paradisiaques, parce que tout n'est pas tourné sur la plage. Moi, ce qui m'a marqué beaucoup à La Réunion, c'est que c'est un des plus beaux endroits où on voit des gens cohabiter ensemble.
Mmh.
T'as des gens, je crois, de tous les types. Il y a tous les croisements possibles au niveau de l'humanité. Vraiment, toutes les origines. Et t'as des gens. Et tu peux voir une église à côté d'un temple, à côté d'une mosquée, à côté d'un... Il y a pas de, de regard. Oui, on vit ensemble, on est sur la même île. Ouais, vivons ensemble. Voilà, c'est bon. On va pas ghettoiser les gens forcément. Donc ça se mélange, ça fait des rencontres de au niveau de tout, au niveau de la nourriture, des langues, des machins. Je trouve ça déjà très très beau. Et puis au niveau de la nature, évidemment, c'est complètement incroyable, aussi bien en effet dans l'eau que dans la nature. On est allé au centre d'un on a marché. Voilà, on allait dormir dans un petit village. Au fond du cirque de Mafat. Ouais. Et c'est. T'arrives vraiment. Là, tu te dis, mais donc il y a des gens qui vivent là et ça te remet les idées un peu en place. D'accord. Ok. D'accord. Tu es à je sais pas combien d'heures de marche. Je sais pas si tu l'as fait.
Pas Mafat, mais je vois très bien. C'est que généralement, tu marches au moins 3-4 heures pour aller à un endroit. T'as un dénivelé de malade parce que où ça monte beaucoup, ça descend. Enfin, tout ce que t'as descendu, tu dois le remonter à un moment
c'est
ou l'autre.
C'est même pas le dénivelé, c'est la longueur, tu vois, qui m'a marqué, parce qu'on était beaucoup, pendant 6 heures, on a marché à flanc de colline, mais il n'y a pas de route qui arrive là-bas. C'est-à-dire qu'il faut bien être clair, là, pour, il faut vraiment, se débrouiller. Donc, tu dis, il y a des villages qui ont été faits, mais donc, il y a de la tôle, il y a du bois.
Avec les matériaux sous la main ou les trucs faciles à transporter, ouais.
Très bien. Et donc, là, il y a ça, il y a, en haut de falaise où la mer venait se fracasser, tu te dis mais c'était l'océan à l'état brut et puis évidemment sur le volcan où là t'es sur la lune, là t'es vraiment totalement sur la lune, c'est complètement incroyable. Et donc la Réunion ça a été, et puis on a la chance aussi d'y rester 15 jours encore une fois, donc je peux pas dire j'ai fait la Réunion. Moi il a fallu 16 ou 17 jours
à 2 jours près, ouais, c'est dommage,
putain, c'est dommage. Mais en revanche je peux dire que la Réunion c'est un des voyages qui m'a vraiment marqué, et tu dois aller vivre quelque part, la Réunion pourrait être une destination potentielle. Parce que il y a une vie possible là-bas. C'est pas une vie de carte postale. C'est une vraie vie mélangée à des.
Bon, c'est un des pays qui a, enfin, en tout cas, des pays d'Omtom qui a le taux de chômage le plus élevé.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de oreilles, comme on les appelle, des continentaux qui viennent s'installer là-bas.
Alors, moi, de toute façon, je suis intermittent, donc on nous demande de bien cocher qu'on est encore à la recherche d'un emploi. Donc, de toute façon, je suis classé
comme
chômeur. Je
connais la démarche.
Donc, aller faire le chômeur là-bas ou, tu vois, ici.
Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, quand tu voyages, parce que là, tu voyages avec ta troupe, avec l'équipe du spectacle, mais quand tu fais des voyages perso, t'es plutôt seul, en groupe, en famille?
Je ne peux pas, et je crois que je ne pourrais pas voyager seul. Maintenant, je te dis ça, je me faisais la réflexion quand j'étais jeune, par rapport au cinéma, par rapport au restaurant, en me disant j'avais envie de pleurer quand je voyais quelqu'un seul dans un restaurant, seul dans un cinéma, en me disant mais les pauvres, mais
la détresse de cette personne,
cette personne qui est obligée d'être seule. Et à la suite
on peut faire des mots.
Et je me suis retrouvé à aller au cinéma seul, avec évidemment, je crois que j'ai commencé la séance plus ou moins en pleurant. J'avais envie
Et c'était une comédie.
C'était Volcano. Et je me rappelle très bien du film avec Tommy Lee Jones. Donc c'était un documentaire sur le. Tu vois, on parle d'un moment. Et je me suis dit.
Un volcan qui explose en pleine ville.
Voilà. Je vais pas aller voir un film trop sur une séparation ou quelque chose. C'était pas possible. Et donc je suis allé voir ce que je m'attendais à être une bouse. Et qui, en fait, c'est une bouse. Mais en fait, il n'empêche que c'était celui qu'il fallait voir. Et je me suis rendu compte que il y avait un vrai plaisir potentiel à découvrir les choses seules, tu vois. Et en tout cas, c'est devenu quelque chose que j'ai beaucoup fait, aller au cinéma seul. Puis après, j'ai eu l'occasion, par la force des choses, d'aller au restaurant seul, et en me disant, j'ai appris à vivre avec moi-même et me construire aussi une solitude qui est devenue même importante pour moi, pour la construction, tout ça. Et je voulais en venir justement au voyage. Pour l'instant encore, ça me paraît totalement impossible, parce que quand je l'ai fait, pour moi la beauté, mais c'était vrai parce que ce que j'avais comme réflexion au sujet des films, au sujet des restaurants, la beauté n'est rien si elle n'est pas partagée. J'ai besoin de dire mes angoisses, mes réactions, j'ai besoin de partager, d'en discuter. Et c'est vrai, c'était vrai pour un film. C'était un film qui te passionne. T'as pas vu la même chose, tu l'as pas vu au même moment. Enfin, je veux dire, comme une pièce de théâtre, t'as envie de dire, mais tu vois, on sait très bien que d'un jour à l'autre, il y a un jour c'est magique, l'autre le lendemain c'était pas mal, mais c'était pas la même chose. Et donc, j'ai besoin, évidemment, de partager ça avec des gens. Et je n'ai jamais eu le courage et d'affronter cette solitude pour le voyage, pour un truc aussi important, aussi bouleversant. Et je sais que toi, tu as tendance à voyager seul.
Mais c'est parce que voyager seul, souvent, en fait, t'es pas forcé à rester seul, tu vois, du début à la fin du voyage. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que, évidemment, quand tu pars, t'es seul, tu pars avec tes doutes, avec tes peurs, avec tout ça. Et une fois que t'es sur place, en fait, tu rencontres tellement de gens. Parce que ben, quand t'es en train de regarder un coucher de soleil à un endroit où t'as potentiellement 2, 3, 4 autres personnes, parfois 200, on s'en fout, qui viennent au même endroit pour regarder, bah, t'as tellement besoin et envie de te le partager que du coup, bah, ça crée, tu vois, cette espèce de lien social où tu vas parler avec des gens. La dernière fois, j'étais en Suisse, hein, près de chez moi, mais je fais visiter le sommet d'une montagne. Il y a un jeune couple qui est en train de faire des photos. Et juste, tu passes à côté, tu commences à échanger avec eux et on se les caille, il y a du vent, tout est désagréable, vraiment, à part le coucher de soleil qui est magnifique. Et juste, en plus, ils parlaient anglais assez mal. Moi, anglais... avec mon accent et mon vocabulaire. Et il n'empêche qu'on a eu un échange qui était génial pendant 15-20 minutes et on a partagé ce moment. Et puis après, chacun s'est séparé pour repartir vivre sa vie.
Si tu essaies de faire des métaphores pour dire que vous avez fait une partouze dans une tente, ça ne m'intéresse pas, monsieur Barthélémy.
Il s'est trop froid.
Justement, j'ai une raison de
ça mal tourné. Ouais, non, il y a des choses, ça passe pas, qu'est-ce que tu veux.
Non, mais j'admire, mais en tout cas, n'empêche que, tu vois, là, vous étiez quand même déjà deux au moment
où
tu me parles, mais parce que moi, j'ai un chat dans la gorge, je pense que la partie des choses seront peut-être coupées ou montage, au contraire, tu voudras m'humilier.
Je vais les garder. Alors là, il est en train de vomir, là.
Vas-y. Non, mais en tout cas, cette partie du voyage m'est encore compliquée, je peux, quand je suis...
Mais ça te donne envie. Enfin,
ça me terrorise totalement.
Ouais.
Et j'ai beaucoup d'amis proches qui ont fait des vrais tours du monde seuls. Tu vois, vraiment une année à vraiment dire sac à dos, paf, c'est parti, chaussures.
Mais ça va dans le sens du bouleversement et de l'aventure dont
tu parlais. Et c'est des gens qui avaient besoin de ce bouleversement-là. Là, j'en suis encore, je pense, dans mon rapport au voyage, à un bouleversement contrôlé, je pense.
Ouais.
Tu vois, je suis quelqu'un d'assez je pense peureux, tu vois, et d'assez méfiant, et donc à chaque fois je me fais surprendre par la simplicité des choses. Par exemple, tu vois, je me fais embarquer, mais j'étais avec ma famille, hein, mais tu vois, mais embarquer dans le souk de Marrakech et le mec, parce que tu sais, les gens peuvent être très insistants là-bas.
Ouais, ouais.
Et là, il y a un mec qui me dit, vous allez où dans le souk? Et dit, non, mais on va se débrouiller. Non, vous allez où, etc. Ben, je sais pas, on cherche quoi? Pourquoi pas un plat? Venez avec moi. Toc. Et là, il nous emmène. Bon, je savais qu'il fallait raquer. Bon, et le temps que je dis, bon, combien, le mec était, voilà, c'est là, au revoir, bonne journée. C'est-à-dire qu'il m'a juste aidé, il ne demande rien, mais que sont ces personnes qui veulent juste aider?
Arrêtez, il faut casser les codes, ça ne marche pas comme ça normalement.
Exactement, et ça c'est tu vois, et moi ma petite flip de d'angoissé et de certainement de parisien a été complètement juste ce petit moment gratuit, ce type qui est juste là, nous a vu, nous a aidé. Et donc, j'essaie de le faire quand je peux. Il y a quelques jours, je voyais des Anglais devant une carte du métro. Je me suis arrêté, vous voulez aller où, machin. Et je n'aurais pas demandé d'argent, tu vois,
cette fois-ci. Alors que les fois précédentes, puis ça gagne bien quand même.
C'est ça. Mais. Non, mais je pense qu'il y a une étape de moi, et je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais peut-être qu'il faudrait, et tous les gens qui l'ont fait, soit dit en passant, sont des gens qui avaient quand même connu un assez fort bouleversement dans leur vie, une séparation compliquée, un deuil.
C'est un besoin de changer de cadre à un moment de ta vie.
Qu'ont vécu une et je vois tout à fait, mais possiblement je me vois assez bien le faire dans un premier temps, marcher pour faire un, je sais pas, un tour de France à la marche. Le vélo, j'ose pas trop dire parce que ça fait quand même mal vraiment.
Au cul. Donc,
je vais dire, on fait des mots comme coccyx ou des choses comme ça, mais oui, ça sera.
Soyons directs.
Ouais. C'est là-dessus que ça se tourne, ouais.
Mais c'est des super idées. Il y a pas mal de gens qui me demandent justement, mais où partir? Ils ont peur de partir seul. Et je dis, mais t'es pas obligé de partir loin. pour vivre déjà juste l'expérience. Et je trouve que ce que tu décris là, c'est parfait. C'est-à-dire commencer par un resto tout seul, regarder, tu te rends compte que tu peux kiffer juste à regarder. T'es pas obligé de parler, tu vois, tu regardes les gens vivre autour de toi, c'est génial. C'est comme quand tu te poses en terrasse d'un café, aller voir un film seul et te dire, ok, les gens sont pas en train de me juger.
Préciser aux gens qu'il faut regarder discrètement, faut pas rester fixé sur un autre type qui mange seul. Sinon, ta vie peut prendre une autre tournure.
Bah, je me suis assis à sa table, je l'ai regardé. Et à un moment, la police est arrivée, j'ai pas compris.
J'ai juste dit 3 mots. Alors, mon grand. Et là, il y a eu un virage dans ma vie.
Voilà, prenez le risque, mais de loin. C'est ça qu'on regardera. Prenez le risque discrètement.
C'est ça.
Du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec tout ça, tu réponds un peu à toutes les questions flash, que ce soit un peu mer ou montagne, loin ou proche, aventure ou détente, finalement.
Alors, clairement, je veux bien répondre indépendamment à sa question, parce que,
ah oui,
par exemple, peut-être à La Réunion, toi, dont je te parlais, ce qui m'a manqué, c'est un rapport peut-être plus simple et plus brutal à la mer. Je suis un Normand, moi, et en ayant vu la chance, parce que j'ai fait pas mal de mer.
J'ai fait la Normandie. J'ai fait la mer.
J'ai fait la mer. Mince. Je vous demande d'orthographier cette phrase correctement. Je crois que j'ai besoin, tu vois, la côte de Nacre en Normandie, enfin, je viens, ma famille est de là-bas, et il y a ce côté mer froide, un petit peu, toujours un petit peu agité, enfin, avec du sable dedans, avec. Et ça ne fait pas du tout les mers de Lagon, même en Bretagne, où tu as vraiment des eaux limpides beaucoup d'endroits. Je crois que j'ai besoin de cette mer, et cette mer qui te saisit aussi par sa fraîcheur. Et je crois que j'ai besoin de ça. Et à La Réunion, ça m'a manqué parce que la mer est un danger, vraiment. Donc, on l'a vécu, comme on le disait. Et il y a des plages qui sont tout simplement interdites. Tu as une plage gigantesque. Et tu peux tout au plus t'allonger et c'est tout, quoi.
Ouais.
Et ça, je sais que ça a été une vraie frustration parce que la mer est un besoin de longue date. Et je pense assez sérieusement aller partir m'installer, tu vois, devant, à côté de la mer. Je crois que j'ai un besoin qui est de plus en plus fort, plus en plus grand. J'ai toujours aimé la montagne, mais la montagne...
Une étape et pas comme un lieu de vie.
Ouais, j'aime bien ponctuellement. Par exemple, je suis pas un. Enfin, le ski, je prends du plaisir un peu plus maintenant, mais pendant longtemps, juste pour le ski, pour moi, c'était le moyen le plus court de rejoindre deux télésièges. C'était vraiment assez clair comme définition. Et je me posais, donc je trouvais ça assez joli. Comme, mais alors, par contre, le ski, faire les trucs,
il faut descendre,
ça me faisait mal et c'était assez violent. Et puis surtout, tout le décorum, fallait mettre des anors avec des combis, des bazars, fallait mettre des chaussures dégueulasses qui puent, aller chercher des skis mouillés qui font mal aux mains, aller prendre des... Oh là, ça me gonflait vraiment. Aujourd'hui, je prends un peu plus de plaisir. J'ai réappris à un peu savourer ça. Mais c'est vrai que même la montagne l'été, on l'a beaucoup fait avec mes parents. C'était des vrais fans de marche. Je l'ai fait un peu. J'ai plus de mal à le faire en famille parce que j'ai un des enfants qui ne peut pas trop marcher. Mmh. Je suis content de le faire de temps en temps. Et quand on a pu aller, quand j'ai pu aller voyager, de temps en temps, c'est des choses que j'aime bien faire ponctuellement, mais je n'irai pas m'installer à la montagne.
Ouais.
Voilà. Surtout pas dans une vallée où il te manque du soleil, vraiment. Mais la mer, oui, je crois que c'est un besoin viscéral et j'aimerais faire plus de bateaux, ouais, certainement. Ouais.
Profiter des embruns marins et de tous ces bienfaits, hein. Finalement, c'est avéré, hein, que ça fait du bien à la santé.
C'est ça. Et surtout, encore une fois, pas forcément dans le côté plage cocotier, vraiment. Ça, le faire ponctuellement, c'est super, mais je crois que je serais plus sur une plage la mer plus brutale, la mer froide, les embruns, comme tu dis, l'écume, les clapots, je veux quelque chose.
T'as pas la gerbe en bateau
Oui, parce que
moi,
plus
tu
ou
me parles
moins.
De ta mère de Normandie, j'ai déjà un peu la gerbouille là.
Non, je crois que c'est quelque chose qui. Non, je n'ai pas été trop sensible à ça, ça va. Non, ça va.
Bateau plutôt voilier ou
moteur? Oui, si possible, voilier, mais je ne peux pas dire que j'en fais très souvent. Je sais que c'est ce rapport à. C'est ce rapport, j'aime les petits bateaux, tu vois, les bateaux où tu te prends la mer dans la tronche, où il y a encore entre guillemets un peu d'aventure. Je rêverais, alors voilà, mes rêves de voyage. Alors, ça, un rêve très précis que j'ai, et pour te dire, je l'ai depuis que je vais avoir, je pense, 14 ans avec mon cousin. On rêvait de prendre un 420 ou donc un petit voilier minuscule de place, hein, vraiment non habitable, et d'aller faire du canotage sur l'ensemble de la Normandie, faire le tour par exemple de la, et ça donc c'est un défi qui est interdit déjà. C'est interdit, donc pour dire qu'on est un peu rock, et d'aller de plage en plage, tu vois, de te poser le soir, de mettre une tente que t'as comme tu peux, tu vois,
en bivouac,
dans des bidons,
et puis, ouais.
Voilà, en bivouac canopy, et puis d'aller et encore plus grand rêve, de faire une traversée, mais encore une fois en bateau non habitable, d'aller réussir à aller en Angleterre, alors ce qui est totalement proscrit et interdit, parce que là tu croises tout un tas de bateaux, il y a des ferries, des machins, mais de réussir à faire une traversée, de changer, d'aller sur
de
une île
sur une autre
en 420, mais j'ai fait du voyage en bateau habitable, c'est quelque chose, mais là en imaginant la vraie aventure, te dire ok, là, il faut se préparer, il faut penser le voyage. Ça, je sais que ça me ferait vraiment, vraiment rêver. Et puis accoster avec un truc réussi.
Avec ton drapeau français comme ça que tu plantes
sur la plage en Angleterre.
Cette terre est mienne.
Avant d'être abattu par des snipers anglais, bien sûr. Évidemment, tu as compris. Ouais.
Oui, d'accord. Donc un besoin de conquérir le monde, un besoin.
Tout à fait. Et leur apprendre enfin à parler notre langue dignement. Pas comme Jane Birkin.
C'est une honte, monsieur dame. Ah. C'est une honte. Eh bien, écoute, nous allons pouvoir passer à la suite. Je te pose une question et tu essayes de deviner. C'est une question qui est liée souvent à l'habitude d'un pays ou à quelque chose d'un peu insolite lié à un pays. Et toi, tu dois deviner de quoi je parle.
D'accord.
Ça te paraît clair ?
Non, mais on va essayer de jouer. Est-ce que ça, il faut que je mette le...
Non, je mets une petite musique d'ambiance, mais tu n'es pas obligé de mettre le casque. Voilà, sans toi libre. Je lance la petite musique d'ambiance et je te pose la question. À Kiruna, en Suède, j'espère que je le prononce bien, qu'a réussi à obtenir une compagnie qui exploite une mine de fer ? T'as le droit de poser des questions, hein, et moi je réponds par oui ou par non.
Alors, j'ai la réponse, c'est vraiment de construire des brosses à dents en métal, voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'indice, merci.
Et
j'ai déjà un
dedans.
Point.
Allez, c'est terminé, bravo.
Alors, vas-y, redis. Non. Non, alors, on va dire, à Kiruna, donc...
Oui, à Kiruna, en Suède, donc une petite ville minière... Est-ce que j'arrive à faire une phrase complète et correcte ? Qu'a réussi à obtenir une compagnie qui exploite une mine de fer ? Je te donne un indice quand même.
Vas-y.
Pour c'est lié à la localisation de la mine de fer.
Ah, est-ce qu'elle serait pas sous l'eau ?
Non.
Non. Est-ce qu'elle serait pas au milieu d'une ville ?
Oui.
Elle est à Kiruna.
Exactement,
yes,
c'est gagné ! Champion.
Eh ben oui.
Oui, mais c'était dans l'énoncé, tout à fait. Alors du coup, effectivement, t'as déjà beaucoup d'informations. T'as trouvé beaucoup d'informations, à savoir la mine de fer, donc qui est sous une ville. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'obtenir ou de demander, sachant que une mine sous une ville, c'est pas pratique.
C'est dangereux.
Ouais.
Est-ce qu'il y a pas, ça a pas rapport aux habitations ?
Ça a pas rapport aux habitations, si.
Est-ce que justement qu'il n'y ait pas d'habitation à moins d'une certaine distance de la...
Imagine, c'est qu'il y a le filon et la ville qui est juste au-dessus. Et le filon passe...
Pile dessous.
Qu'est-ce qu'on peut envisager pour essayer de...
Alors, d'alléger les immeubles...
Pire.
De les détruire.
Et les gens, on les met où ?
Alors, il y a une réponse qui est tellement vulgaire, je n'ose pas la formuler. et je ne sais pas si ça va te plaire, Loïc.
Non, puis il n'y a pas assez de place. Il y a déjà trop de monde, merci.
Alors, les gens, on les met où ? Dans la mine.
Les gens, on les vire dans la mine. En fait, tu y es presque. C'est juste que il manque ce petit truc, c'est-à-dire que les gens, donc on va détruire leur maison. Mmh. Et après, on va les...
Les exproprier, les expatrier,
t'as pas
les
envie
tuer.
De... Les relogers, par exemple, ça, t'as pas envie de... Toi, c'est tout de suite... Alors, toi,
si,
c'est
mais les relogers,
quoi.
Non, mais je sais bien, mais les relogers où, c'est ça la...
Bah, c'est ça, en fait, je te le dis.
C'est très christique comme problème.
En vérité, je te le dis. J'essaye de m'adapter aux invités que j'ai, ouais, comme je sais que maintenant tu as fait des écrits pour l'église. Ils ont réussi à obtenir que le centre de la ville soit déplacé.
Ah oui, c'est pas mal.
Donc, Bon, parce que aussi, la société, elle est détenue à 100% par l'État suédois. Et donc, ils ont réussi à convaincre la municipalité qui extrait chaque jour jusqu'à 100 000 tonnes de fer, soit 90% de la quantité produite à l'échelle européenne, une quantité suffisante pour fabriquer quotidiennement 13 tours Eiffel, ce qui est inutile de fabriquer 13
ouais,
tours
Eiffel.
Oh, ouais,
c'est ça, oui, ça fait un peu, un peu secte.
Oui, pourquoi font-ils ça? Mais du coup, ils ont fait déplacer la ville pour pouvoir continuer d'exploiter le filon.
Ah ouais.
Est-ce que, écologiquement, on n'est pas au sommet de ce qu'on sait faire?
Écoute, écoute, c'est embarrassant. Maintenant, c'est embarrassant. Maintenant, bah, le fer, ça permet de faire plein de trucs, tu vois. Bah, en effet, tu parlais des tours Eiffel, c'est important d'avoir une tour Eiffel.
N'hésitez pas à commander la vôtre, d'ailleurs.
Ouais, ouais, là,
sur le site de
Kirona.com,
ouais, c'est ça.
Point centre-ville.
T'es pas obligé d'avoir un avis dessus.
Non, je suis
hein.
pas prêt de dire que je suis très embarrassé. Pas... parce qu'en effet, de toute façon, cette ville vit sur la mine. Donc, je suis même pas sûr qu'ils soient mécontents. Tu vois ce que je veux dire? C'est que eux, quand tu vois comment fonctionne la mine dans le nord, tu vois, le charbon, ça tuait des gens. Mais c'était toute la vie des gens autour aussi. Et c'était leur religion et leur. Ils ont un attachement à la mine qui est tellement irrationnel, tu pourrais te dire, mais c'est l'enfer, les mines de charbon, c'est le vrai enfer au premier sens du terme. Oui. Et ben non, c'est leur vie et les femmes de mineurs étaient complètement les mères, les femmes de mineurs étaient totalement flippées. Tu les entends parler, bah ouais, mais c'est la mine, donc on n'y touche pas. C'est que la mine, c'est notre vie. Quand ça fermait,
ils ont grandi dedans,
drames,
et ouais.
C'est de suicide. De ce que
oui, tu penses que les habitants de là-bas ont accepté aussi parce que c'était sans doute 80 voire 90% de l'activité professionnelle.
Tu vois les usines de sidérurgie, quoi. Tu vois le drame de la fermeture d'usines, les gens, ils sont complètement. Une usine, c'est. Quand tu vas à l'usine, c'est pas juste il me faut un boulot, je vais pointer, il y a une fierté, c'est le cœur. Et en plus, quand tu travailles une matière première comme tout ça, je crois qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement et c'est totalement irrationnel. Mais tu vois l'attachement des mineurs et des gens, toute la ville de Kiruna, à mon avis, je la connaissais pas avant, mais doit vivre entièrement, surtout si elle est si importante, cette mine. Et voilà. Donc je pense pas qu'il faut bouger le centre-ville. Ouais, bah vas-y, écoute.
Faisons ça.
Tu vois, nous, ça nous paraît choquant de loin, mais eux, en tout cas, à mon avis, à Kiruna, ça vaudrait le coup de faire un sondage. Je suis pas sûr que les gens soient si embêtés que ça.
Et j'ai pas regardé, j'ai pas pensé, j'y pense là quand tu en parles, mais à regarder aussi à quoi ressemblait le centre-ville de Kiruna.
En plus, ça se trouve, ils ont peut-être à y gagner.
C'est peut-être pas le Louvre à déplacer non plus.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. On dirait sur Paris-Centre, en disant, ça va être compliqué de vivre un Paris-Centre à la Défense, mais.
Mais ah oui, bah écoutez, faites des recherches de votre côté, nous on en fera aussi de notre côté. Il est temps de passer au moment révélation. Ce petit jingle un peu flippant pour annoncer que c'est le moment où tu vas nous raconter en toute intimité, avec ton consentement total bien sûr, je t'ai fait signer un papier pour ça, un souvenir gênant, inavouable, inoubliable que tu aurais vécu en voyage.
J'en ai un qui me vient, que je trouvais assez, que je n'avais pas vu, mais somme toute, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir vivre, enfin, en tout cas même à Paris, mais que moi je ne connaissais pas. Alors, j'étais en plus assez jeune, j'avais 24 ans. Et je suis allé à New York. J'ai fait New York, tu vois.
Et ça, tu peux dire.
Et c'était assez merveilleux. Je vais te raconter deux souvenirs. Il y en a un qui est, voilà, qui est
ça,
assez.
C'est la générosité de la.
Ouais, il y en a qui est assez loufoque et l'autre qui est assez touchant.
D'accord.
En fait, voilà.
Ah, mais peut-être la touchante, on peut aussi.
La garder pour après.
Ouais.
Ok, alors je te fais la
loufoque.
Qui m'avait vraiment. J'étais logé chez un copain et on est revenu. Enfin, on était deux à partir, puisque je ne pars pas seul, je te l'expliquais. On est parti à deux et on était logé chez un de mes potes de lycée qui était parti s'installer à New York et il était incroyablement bien placé. Il était dans une colocation qui était sur. Vraiment, enfin, c'était en plein cœur de Manhattan, c'était vraiment, vraiment chouette. Et donc, j'ai passé vraiment des vacances très touchantes. Je me suis vraiment baladé. C'est vraiment les volumes de New York, le machin, c'est très bien. Mais j'ai vu quelque chose. Un jour, il a fait venir le livreur de drogue. Et il m'a dit bonjour, bonjour. Et le mec est arrivé avec une valise avec tout un tas de formes de weed.
D'échantillons.
Et des machins, exactement. Et j'ai goûté à cette occasion la cocaïne que je ne connaissais pas. Et je suis pas moi un consommateur ni de d'herbe ni de cocaïne. Et, mais c'est que et donc il fallait.
T'es pas prêt à entendre j'apprenne. Tout ça.
J'étais épaté qu'il y ait un livreur qui vienne. Mais vraiment que ça pue de sa coche. Bonjour, bonjour.
Uber drug.
Voilà, Uber drug exactement. C'était comme un livreur de pizza, hein, vraiment. Et mais vraiment c'était à la cool, quoi. Vraiment à Manhattan, c'était à la cool. Et quand j'en parlais, apparemment tout le monde le faisait. Et tu vois, j'ai toujours une réputation qui me va très bien de boy scout, un peu dans la chanson. Plutôt, on connaît plus mon passé cato que le côté des fonces. En effet, je suis pas du tout un consommateur. Et là, j'étais épaté de voir. Donc, j'ai goûté la cocaïne. J'en suis mis. Ça m'a un petit peu insensibilisé les gencives. Et donc j'ai fait la cocaïne. Je peux pas dire. Donc voilà, ça m'a un petit peu épaté et je me suis un peu souvenu de ça comme une simplicité. Voilà, vraiment, tu l'appelles, il vient, puis il y avait des fleurs de cannabis qui chantaient, enfin de fleurs de chant, enfin qui chantaient incroyablement bon. Enfin, tu vois vraiment, je trouve l'odeur.
Un parfum
toujours,
et bien sûr, ouais.
Voilà, mais moi, n'étant pas trop consommateur, je.
Mais c'était pour faire une soirée tranquille à la maison ou après vous avez fait, je sais pas, sorti faire la fête ou quoi que ce soit.
Écoute, on voyait pas mal de gens où tu sentais que c'était une forme de facilité d'habitude qui est apparue, je crois, au fur et à mesure dans les rues de Paris aussi, et maintenant qui fait que je crois que c'est très consommé. Enfin, je parle pas du cannabis, ça fait longtemps, mais plus la cocaïne qui est une. Je crois que tu peux en trouver tranquillement aujourd'hui.
Ouais, ça je pense aussi. Mais alors le mec qui débarque effectivement en livraison à domicile avec une mallette et puis un échantillon.
Mais c'est toujours la simplicité. Il n'y a pas du tout le côté en pleine nuit quelque part. Ouais. C'était vraiment le bonjour, bonjour.
Bonjour, c'est machin.
Combien je vous dois? Bah faites un chèque. De toute façon, à la société. Enfin,
N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein,
ouais, c'est ça. Ouais, je vous laisse ma carte.
C'est une bonne note sur TripAdvisor.
C'est ça. Ouais. C'était la simplicité, ouais, qui était assez
marquante. De qualité supérieure, vraiment. On a passé une très bonne soirée.
C'est ça.
Ok, waouh.
Oui, ça
non, mais, et en plus, je trouve que tu vois, le fait que ça se passe à New York, déjà, ça apporte aussi une dimension encore plus...
Oui, et c'était vraiment, en plus, dans un quartier très chic. On n'était pas du tout dans les quartiers problématiques ou quoi... c'était ça, mais en tout cas ça c'était marquant. Mais à New York, il y a beaucoup de petites choses très marquantes qui m'ont vraiment je pourrais sur le voyage à New York, si tu veux, alors que c'est une ville qui ressemble entre guillemets à Paris, on est sur le même type de culture, tu vois, mais voilà, enfin juste à l'arrivée, j'arrive, je sors de l'avion, j'avais voyagé seul en revanche, tu vois, dans l'avion, mais je sors et un type, j'arrive, me demande, vous voulez un taxi? Bah oui, il fallait que j'aille au centre-ville, je veux bien un taxi et tout. C'est bon, je vous le commande, il fait venir un taxi. Et donc, il parle au taxi, il me dit, ça va vous coûter, je sais plus combien, c'était 40$ et tout. C'est-à-dire, bah, j'avais pas fait de monnaie. Je lui dis, bah, j'ai juste un billet de 200$. Donc, je donne au gars le billet de 200$. Donc, il repart au taxi. Et il ressort, il dit, c'est bon, rentre dans le taxi, il me met dans le taxi. Et donc, je vais au taxi, vous avez ma monnaie après, ma monnaie sur. Et donc, le gars avait juste pris les 200$. Tu vois, on parlait des gens qui aident gratuitement. Lui avait pas aidé gratuitement, tu vois.
Il a compensé pour tous les autres.
Et moi, le TB, je venais au moment où je pose mes pieds à New York de me faire piquer 200$ comme ça. Voilà. Et évidemment, ça met dans une.
Je te vois un peu paniqué sortant de l'aéroport avec tes bagages, ce côté de...
L'Amérique.
Ton rêve américain.
L'Amérique.
Mais je trouve que c'est toujours l'image la plus violente quand tu voyages, c'est quand tu sors de l'aéroport.
Ouais.
Parce que t'as pas eu de transition, t'es dans des trucs très aseptisés et tu te retrouves confronté au pays le moment où t'as ces deux portes battantes qui s'ouvrent là ou automatiques.
Ouais,
tu sais,
ouais.
Et t'arrives et tu fais... Ok, là c'est. Moi, tu sais que j'ai un pote, j'adore ce truc parce que j'allais au Sri Lanka et c'était prévu que j'y aille seul. Et il y a deux potes qui se joignent à mon voyage. Et t'en as une qui part avec moi depuis Paris, donc on fait le voyage ensemble. Et l'autre qui partait de Genève. Et son avion arrivait genre 4-5 heures avant. Et il disait, bah c'est cool, comme ça je vais prendre la chambre d'hôtel direct, qu'on avait le petit logement qu'on avait trouvé. Et puis je vais me promener dans la ville. il est arrivé, c'était le premier voyage qu'il faisait vraiment. Donc il arrive là-bas, il a dit, je suis sorti, j'ai vu tous ces gens, les gens qui font, monsieur, taxi, 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 taxi. Il dit, je suis rentré, je me suis allongé par terre et il a fait une sieste dans le hall en attendant 4 heures qu'on arrive. Parce qu'il disait, moi je sors pas tout seul, hein. Moi je vais pas là-bas, c'est des malades les mecs. Ouais. J'ai à peine fait 3 pas, ils étaient déjà 10 sur moi en disant, non mais venez avec moi, non mais moi, tout, tout, moins cher. Moi, c'est, enfin, c'était mais ouais, hallucinant.
Quand t'as l'étiquette en plus du régime blanc et tout. Ouais, c'est
puis lui, il arrivait. Et pour le coup, le Sri Lanka, c'est pas non plus, tu vois, t'es pas dans quelque chose de poussif comme tu peux retrouver effectivement dans certaines parties de la Thaïlande. Ouais. Mais je pense que comme premier contact, quand tu sais pas à quoi t'attendre, parce qu'il arrivait vraiment comme une fleur en se disant, ouais, je viens, c'est quoi, je prends des billets. Puis le mec, il savait pas où il foutait les pieds. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui m'a fait rire avec ça?
Bah, il y a ce côté impressionnant, ouais, quand tu. À Marrakech, faut savoir que toi, quand t'arrives à l'aéroport de Marrakech, t'arrives plusieurs fois, c'est rock, quoi. Il y a ce côté-là, tu dois négocier pendant un quart d'heure avec le gars, parce que tu sais que, non, je vais pas te donner l'équivalent de 200 euros pour aller de l'aéroport jusqu'au centre de Marrakech. Ouais. Non. Donc maintenant, et c'est dur parce qu'on n'est pas habitué à ça, on s'attend à être obligé. Mais
tu sais, quand j'étais en Tunisie pour un spectacle. Et j'étais à l'hôtel Carlton avec un K, je tiens à préciser.
Ah, ça c'est intéressant, ouais.
Et du coup, donc rien à voir avec l'autre. Hein, et vraiment, il y a un mec, je suis dans la rue le soir, on est avec le groupe du spectacle, et puis on cherche un lieu pour aller boire un verre ou un truc comme ça. Le mec, il fait, ah, mais moi, je vais passer à la maison, je vous emmène, j'ai des bières. Là, le problème, c'est que ça va être compliqué pour trouver, même pour boire une bière ou de l'alcool dans le coin, donc ça va être compliqué. Et puis, on dit, non, mais on va pas venir chez vous, c'est adorable, mais non, c'est bon, c'est pas grave, on va se promener. Il fait, ah, d'accord. Par contre, vous auriez pas, genre, 15-20 balles à me dépanner Et on dit, ouais, mais en fait, t'es gentil, mais enfin, comment tu nous les rends après? Il fait, ah non, mais vous êtes à l'hôtel Carlton, non? Et on se dit, mais comment il sait ça, le mec? Il fait, mais moi, je bosse au petit-déj à l'hôtel Carlton. Donc, vous me prêtez les 20 balles, je vous les rends demain au petit-déj. Alors, le metteur en scène a filé les 20 balles.
J'espère qu'il les avait récupérées.
Et il les a jamais récupérées. Le mec ne bossait pas au petit-déj au Carlton, mais je sais même pas comment il savait qu'on était dans cet hôtel-là.
Bah, de ses potes, ou je sais pas quoi.
J'en sais rien, c'est des réseaux, c'est des trucs où t'es là, tu dis les mecs. Moi, je pense qu'il les avait mérité ces 20 balles parce qu'il avait dû faire un travail d'investigation derrière pour essayer de retrouver l'info, tu vois. Mais t'es là, tu dis, ok, en fait, même quand j'essaye de négocier des heures dans un souk pour des putains de pâtisseries et que je suis content du prix que j'ai négocié, je fais 3 pas et je me rends compte que je me suis fait avoir comme un bleu.
Ça,
quoi.
C'est évident, ouais. Il y a vraiment, ouais, on n'est pas...
Mais ça fait partie de l'expérience du voyage.
Ça, c'est vrai. Bon, après, j'ai plein d'autres souvenirs, mais je ne sais pas trop le...
On va y revenir, mais on va faire juste une micro-pause parce qu'il faut que j'aille chercher un couteau.
Je suis angoissé, ça y est.
C'est un moment que j'affectionne particulièrement dans cette émission, c'est la dégustation.
Mais j'ai hâte.
J'ai ce petit produit que tu peux regarder, tu peux nous dire si tu le connais, tu peux nous dire si tu ne le connais pas, tu peux nous dire ce qui t'est... Tu peux le décrire parce que comme c'est un programme audio surtout...
Alors, écoutez, il s'agit vraisemblablement d'un fruit. Il y a vraisemblablement des écailles dessus, comme si on dirait... Regardez, un peu une... Il y a la même forme que des... Vous savez, dans les pommes de pin, si on enlevait chaque partie, le fruit dessus, il y a dessiné à peu près la même forme que les petites...
Comment comme on s'appelle ça
les écorces de pommes de pin, voilà.
Comme s'il avait été sculpté au couteau, un peu.
Exactement, voilà, c'est ça, comme si on avait enlevé avec un petit... Et c'est assez joli. Est-ce que ça sent quelque chose? Une petite saveur assez sucrée, mais enfin, en tout cas, je crois vraiment avoir vu ce fruit. Alors,
tu le connais pas particulièrement, ça te...
J'ai pas le nom, c'est sûr, mais je crois vraiment l'avoir déjà vu et peut-être même goûté.
Coupe. Oui, oui. Et on profitera de parler aussi de ton rapport à la nourriture en voyage, justement.
Ah, voilà, faut que ça dérape. Des questions qui fâchent, bravo.
Te coupe pas en même temps, donc déjà, alors, ça a l'air de se couper facilement, il n'y a pas de gros noyau au centre. C'est...
Ah, alors oui, je crois que j'en ai pris un il n'y a pas longtemps.
C'est vrai?
Il me semble, parce que, est-ce que c'est...
Ça ressemble à un œuf de dragon vert.
Alors, il y a des petits, voilà, il y a des pépins noirs.
Pépins.
Qui ressemblent un petit peu à, on va dire, à des pépins de pastèque en plus gros. La chair est blanche.
Très juteux. Hein.
C'est très juteux, elle est assez molle. À qui pourrait-on comparer ça?
Je crois qu'on a tous eu des images différentes dans notre tête.
Bon, je vais garder les pépins parce que c'est
je te propose de goûter.
Je comprends mieux le petit sopalin que tu as oui, oui. disposé pour qu'on puisse. Alors, je vais m'approcher de la table parce que je vais en mettre partout.
Ah putain.
Hyper sucré. Je pense que ça peut être écœurant, mais par contre, le goût premier, bah tiens, je le.
Attends, vas-y, je passe-moi un petit. Je ferai des coupes hein, pour
ouais,
le.
Ouais, vas-y dedans parce que je veux.
Waouh. Ah oui, bah. Ça a le goût d'une. Ça a le goût de quoi? C'est un peu comme le poulet.
Non, c'est vaguement, vaguement un goût de mangue.
N'hésite pas à te mettre face au micro quand même.
Ouais, c'est vaguement un goût de mangue. Mais parce que quand je mange en même temps, je.
Oui, la mangue.
Il y a un peu la même texture que la mangue, mais avec un. Comme si avait... C'est plus sucré que la mangue.
Une pointe de cannelle un peu, ou un truc un peu épicé comme ça, et à la fois un peu pomme-poire ou poire.
Oui, il y a un petit goût d'orange, de poire. Mais c'est très bon.
Bon, on a l'air de rien à cracher les espèces de gros pépins entre-temps.
Voilà, par contre, faut préciser que c'est un fruit que tu ne peux pas présenter à des amis. Je me parle, lors d'un dîner d'affaires, tu ne présentes pas ce fruit-là. Je veux dire, si tu dois signer un contrat important, tu n'aimes pas le bon choix. Là, tu es en train, mais tu es indigne à un point. Là, tu es en train de crachoyer des pépins à l'intérieur d'un mug.
J'ai l'impression de perdre mes dents, tu sais, genre de...
Vraiment, allez voir sur bartolini.com ce qui se passe, parce que c'est tout à fait intéressant.
Ma grand-mère faisait ça un peu quand elle mangeait, tu sais, après elle crachait un peu sur le côté, comme ça. Ah. Oui, et donc ça s'appelle
l'anone.
Anone.
Comme dans...
D'ailleurs, c'était peut-être prédestiné pour toi.
C'est ça, exactement.
C'est toujours ce lien à l'église qui revient, ah, qui nous
emporte. Mais il a très bon goût, alors je veux dire...
Écoute, tu as de la chance, parce que parfois, il y a vraiment des trucs un peu... Et...
Moi, si je vois quelqu'un manger le truc devant moi, je mangerais tout. Si, que ce soit des vers, des coquillages, des salamandres, des machins. Si quelqu'un le mange devant moi, si je vois que des gens le font, je le mangerais.
D'accord.
J'ai pas de dégoût pour du serpent, du machin, du crapaud.
Et c'est quoi le truc le plus fou que t'aies mangé alors?
Oh, je pense les épinards. Non, mais en France, regarde, moi, tu vois, on mange des choses qui sont. Les escargots sur le papier, c'est quand même pas. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est tu vrai. Vois, les grenouilles, c'est quand même pas incroyable. Mais au final, si je vois des gens et que c'est une tradition, je mangerais franchement. Sans trop de dégoût, mais moi, tout seul dans la nature, le faire, si je serais beaucoup plus prudent.
Ouais.
Et y compris sur les.
T'as besoin de savoir que tu vas pas en mourir, quoi.
Sur les végétaux. Je suis assez fasciné par les livres sur les champignons. Je suis un grand amateur de champignons et de. Je crois que j'ai encore plus de plaisir à les trouver que les. Que les manger encore, mais enfin, vraiment, dès que vient le cèpe, c'est vraiment un truc très important pour moi. Et je suis fasciné quand tu vois tous les bouquins de champignons, d'imaginer le nombre de personnes qui sont passées à la trappe pour établir les bouquins sur les champignons. Alors, je sais que ça s'est fait à un moment, tu vois, ils avaient tellement faim qu'ils mangeaient tout, n'importe quoi, tout ce qu'ils trouvaient. Et il fallait, ouais, mais tant pis, même si c'est dangereux, mais je trouve ça merveilleux qu'il y a encore, je sais plus, cette année ou l'année dernière, où il y a eu beaucoup de champignons. Il y a eu encore 270 personnes, je crois, qui ont bouffé des trucs. Les champignons.
270 personnes qui ont fait des intoxications, qui en.
Oui, donc certains sont morts. Ouais. Et quand tu te dis, c'est connu, tu vois, les champignons, tu ne fais pas si tu ne sais pas.
Ouais.
Enfin, genre, c'est un truc que tous les enfants savent. Eh ben non, il y a encore.
Ah, mais tu vois, moi, on m'a appris à reconnaître les cèpes, à savoir les bolets, les trompettes de la mort, les chanterelles et les pieds de mouton. Et par exemple, les bolets, j'en avais trouvé plein et j'étais genre trop content. J'étais quand même à une pharmacie pour les montrer avant, parce que c'est mieux de toujours aller les montrer à quelqu'un d'autre pour ne serait-ce qu'avoir la confirmation. Sinon, tu trembles un peu la première fois que tu te les cuisines. Mais c'était effectivement des cèpes, mais c'était une variété qui était extrêmement acide,
ouais,
amère et imbouffable. Quoi.
C'est bah, le fameux bolet amer, tu peux en mettre un seul dans tout un plat de cèpes et tu pourras
et
pas manger
tout,
ton plat, ça c'est sûr. En revanche, il y en a qu'un qui soit vraiment dangereux pour la santé dans les bolets, mais les autres sont plutôt insipides et rajoutent à rien, sont spongieux ou des choses comme ça. Mais en revanche, il y a très peu de danger. Oh, mais les gens qui se sont fait intoxiquer sont vraiment des gens qui ont pris des champignons. Oh, celui-là a l'air bon. Enfin, ça, tu te dis, c'est un truc enfantin, quoi. La fameuse Amanite tout mouche, comment tu peux encore te tromper? On le sait, quoi. Bon, bref.
Mais ça donne envie. C'est coloré, c'est
faut
joli.
Pour moi, il faut vraiment avoir... Enfin, les gens qui l'ont essayé, c'est vraiment à l'époque de famine où tu allais dans la forêt pour essayer de trouver même des glands ou des trucs comme ça. Mais
et du coup, toi, il n'y a rien qui te dégoûte particulièrement parce qu'il y a quand même, bon, à travers le monde, alors peut-être que tu n'as pas été confronté non plus à tous ces plats, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a accès à une nourriture très variée, très différente.
Moi, il y a des choses que je n'aime pas, mais qui me dégoûtent au sens, j'en mangerai jamais...
La texture qui ne te donne pas envie ou le...
Ouais, je te dis, je parlais des épinards en rigolant parce que c'est le seul truc, en effet, que je peux pas, mais que c'est lié à un souvenir d'enfance...
Traumatisant,
c'est parce que tous les goûts et les choses que je n'aimais pas, je me suis mis à les aimer. Mais voilà, il y a des choses que je préfère que d'autres, évidemment. Mais si je vois qu'une culture, quelqu'un mange quelque chose... Vraiment, je pense que ça peut être des chenilles vivantes, des trucs comme ça. Je l'essaierai, si je vois que les autres le font.
Mais t'as jamais eu l'occasion.
J'ai mangé des trucs secs, des petits insectes.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Des
paprika ou des trucs comme ça.
Oui, qu'est-ce que j'ai mangé d'un peu surprenant. J'ai pas mangé de trucs foufou. Attends, qu'est-ce que j'ai pu manger à l'étranger Non, sous la tête, là, j'ai pas d'exemple marquant, mais en tout cas, j'aurais aucun problème avec ça, ouais.
Oui.
Je serais pas un mauvais
audacieux donc ça y est aventurier
au niveau du goût ça m'intéresse toujours de voir ce que ça a et puis pour conclure parfois parce que ça vaut peut-être pas le coup de créer tout un commerce de ça parce que autant je sais que les questions écologiques posent pas mal de problèmes avec la consommation pardon de viande par exemple où j'aurais du mal à m'en passer qu'on en mange trop ça je suis d'accord pour la santé et puis pour la planète mais j'ai ma bonne copine Guédré qui est elle végane vraiment végane pas végétarienne elle est végétalienne et elle m'a fait emmener dans un restaurant et j'ai mis une bonne semaine à m'en remettre.
Vraiment. Sérieux ?
Ah, mais ma famille m'en veut encore.
Mais pour quelle raison ?
Au niveau de la digestion, ouais, c'était compliqué. Ouais.
Ah,
c'était compliqué. Ouais,
oui, mais alors parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fèves, beaucoup de péteux, comme on les appelle.
Il y a tout un tas de choses qui n'est vraisemblablement mon corps n'était pas prêt. Mais... il me fallait un truc d'adaptation. Je mange des grains de charbon directement.
Non, mais c'est par transition. C'est, tu vois, faut pas faire les choses, passer d'une alimentation extrême à l'autre directement.
Après, c'était juste un repas. Hein, tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas fait une semaine de ça. Tu vois ce que je veux
oui,
dire ?
Oui.
C'est que j'ai fait un repas, mais le repas, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?
Pour la suite.
Et donc je soupçonne. Alors
vas-y.
Parce qu'il y en a qui disent beaucoup qu'il faut supprimer la viande à cause du méthane que ça dégage. Juste ce jour-là, je pense juste ce jour-là, je pense que j'ai condamné le marché de la viande et la culture animalière parce que je promets que j'ai fait beaucoup de mal à la planète ce jour-là.
Eh ben écoute, en parlant de méthane, nous allons passer au coin du feu. J'espère que c'est pas trop risqué. En tout cas, on va aller se promener et on va se poser autour d'un petit feu pour se raconter des histoires. C'est le moment où je te vois, on est au coin du feu, tu te resserres un petit bout de ce hanon et tu vas t'en foutre partout. Et...
Oui, c'est ça, c'est très bon, je vais essayer de le découper. Mais bah, je t'écoute
complètement. Non, mais je t'en prie. Le but, c'est de se raconter là un souvenir de voyage, mais un souvenir de quelque chose qui t'a marqué, qui t'a touché, qui t'a émotionné, peut-être qui t'a fait flipper. Et on va le faire en musique. Donc tu vas pouvoir choisir l'ambiance musicale que tu veux. Tu peux tout aussi raconter un truc un peu flippant sur une musique d'action ou sur une musique un peu d'amour. Hein. Fais-toi plaisir si tu as envie de mélanger les genres.
Je vais prendre Amour-Tristesse.
Je vais prendre Amour-Tristesse. Très bien.
J'ai eu la chance de récemment d'aller jouer donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et franchement, depuis très longtemps, depuis ma... plus tendre enfance, je crois que c'est vraiment un des pays d'Afrique dans lequel j'avais vraiment envie d'aller. L'Afrique subsaharienne m'a toujours attiré et je rêvais d'être d'ailleurs un petit peu presque perdu dans ce pays, d'aller dans un vrai village reculé, d'aller dans un coin pour découvrir un peu la vie africaine de l'intérieur. Et on est arrivé un soir à Abidjan Et dès le lendemain matin, j'ai ouvert la chambre de mon hôtel qui est placée dans un quartier équivalent à La Défense en France. Puisque évidemment on était logé dans un hôtel assez luxueux. Et j'ai ouvert ma fenêtre et il n'y avait que des immeubles, si ce n'est déjà construit, au moins en construction, où des gens noirs construisaient des hôtels de luxe pour des gens blancs qui venaient traiter des affaires et se partager leur pays et ce qu'on pense avoir un petit peu arrêté ou ce qui était en mutation ne l'est pas tant que ça. Et on s'est baladé dans le... Évidemment, nous, on a joué que devant des blancs, puisque les communautés se mélangent pas forcément. Il y a beaucoup de Libanais là-bas, à Abidjan, mais les Libanais restent plutôt entre Libanais, et puis les vrais Ivoiriens entre Ivoiriens, et puis les expats entre expats, et c'est comme ça. Et donc, on s'est baladé, et j'ai été bouleversé... Et un peu triste de voir qu'il y avait des panneaux publicitaires partout, partout, partout. On apprenait, on avait réussi à apprendre aux gens à consommer tout le peu d'argent qu'ils pouvaient avoir. Parfois, il y a des gens qui réussissent, mais voilà, il fallait acheter. Et au centre commercial d'Abidjan, on avait un Kiabi, on avait un Gosport, on avait un Burger King, une Fnac. Vraiment, c'était ça. Et qu'on a réussi à chambouler cette manière de penser, de vivre des gens qui vivent dans des bouchons, des machins, et surtout qui consomment. Et évidemment, c'est plus facile d'aller acheter des produits de l'eau, tout simplement, d'aller acheter de l'eau dans une bouteille, dans un pack d'eau. Et ce qu'on s'efforce de faire comme on le peut, nous, dans notre pays, à essayer de le trier, ça, voilà, on leur a pas appris. On leur a appris à consommer, pas à gérer les conséquences de la consommation. Et donc dans tous les coins de lagunes, dans tous les coins de villégiature, des endroits où on va passer le week-end là-bas ou au moins l'après-midi, c'était que des poubelles à ciel ouvert en fait, et notamment la mer. Et quand avant, on gérait des épluchures normales de fruits ou de carcasses, etc., des choses qui pouvaient se gérer avec la nature elle-même. Là, aujourd'hui, la mer, les lagunes sont dans un état et ils continuent à vider l'ensemble des déchets dans la mer.
Et, par habitude.
Et une habitude qui n'est pas en... Ouais, enfin, en effet, ça allait quand c'était pour vider oui. les carcasses qui étaient mangées par les poissons, tout ça. Et tu peux plus... Enfin, c'est incroyable. T'as une couche de 5 mètres de déchets devant chaque ça m'a totalement bouleversé, et de voir que cet endroit que j'espérais, qu'on a réussi à le pourrir, au sens les gens sont beaux, les gens sont merveilleux, tu sens qu'il y a une culture qui est très forte, et que j'ai à peine effleuré. J'ai été malheureux, meurtri par l'état du monde, et notre supposée culture occidentale est venue laminer cette culture en important des choses qui n'étaient pas prêtes à gérer, comme quand on apportait, tu sais, aux Indiens d'Amérique l'alcool, les choses comme ça, les virus aussi avant, mais là il y a des gens qui ont un pays qui est merveilleux. Dès que tu t'enfonces dans le pays, t'as une nature luxuriante, un rythme de vie que j'ai à peine effleuré. Je peux même pas dire que j'ai fait la Côte d'Ivoire. ça m'a bouleversé. Je suis revenu très, en me disant, on est allé trop loin. Et tout ce qu'on, en effet, on est assez protégé en France, de la pollution. On s'efforce de faire au mieux, mais je pense qu'on a perdu le combat. J'étais assez défaitiste, puisque je sais que on est 70 millions à peu près en France, et on essaie de trier au mieux. On fait comme on peut. On produit encore 1000 fois trop d'emballages et de machins comme ça.
Sur le système de tri qu'on a, tu vois, il y a une grande partie de nos déchets qui étaient envoyés en Chine pour être traités.
Voilà.
En Chine.
Mais sachant que la Chine et l'Inde gênent, alors qu'ils sont 1,7 milliard pour la Chine, 1,3 milliard, je crois, jettent directement dans la mer encore. Donc, en fait, ce fameux océan, j'en ai vu que les plages d'océan de plastique dont on nous parle, qu'on ne voit pas, là, j'en ai vu les plages, quoi, voilà. Et ça m'a vraiment fait de la peine parce que ils font eux-mêmes, enfin, ils se baignent eux-mêmes dans leurs ordures. Il n'y a pas encore eu de réflexe. Ils ont toujours fait comme ça. Et en effet, hein, quand il s'agit de jeter, mais par exemple, même sur les, je pense qu'il y avait un côté où dans la culture, vu leur pays dans lequel il y a une habitude de se contenter peut-être de peu, de savoir de profiter de chaque élément. Et maintenant, on leur a appris à consommer. Et dès que vous jetez et vous rachetez d'autres trucs.
Ouais.
Et là, j'ai vu vraiment le. On nous protège, nous, on est riches, donc on nous protège. Mais ça m'a fait une peine immense pour ces gens qui, aujourd'hui, vraisemblablement, n'en voient pas encore les conséquences néfastes.
Enfin, moi, je sais que ça me ramène toujours une certaine culpabilité de se dire, mais ça, c'est en fait, c'est
ouais,
nous.
C'est nous, c'est notre cadeau.
C'est notre société à ouais, nous qui.
Tout à fait. Et qui continue à le faire de manière plus pernicieuse, tu vois, plus masquée. Et c'est terrible parce qu'officiellement. La France n'est plus vraiment là, mais tu vois une énorme avenue qui fait mais plus de 5 km de long, qui s'appelle l'avenue Valéry Giscard d'Estaing, tu vois, où t'as pas d'avenue au nom de chef d'État africain à Paris. Tu vois, je veux dire, c'est genre, entre guillemets, les bienfaiteurs et... Bon, enfin voilà, ça, je suis revenu avec le cœur un peu gros de tout ça.
Ouais.
Voilà.
Ouais, mais je comprends, ça fait résonner énormément de choses vis-à-vis de la société, de la colonisation.
Complètement.
Puisque c'est exactement la thématique. Hein.
Et on m'a dit que vraisemblablement, moi j'avais pas fait de voyage en Asie du Sud-Est, mais c'était ce genre de choses aussi.
Ouais,
qu'on retrouve. Dans les plages qui supposément sont paradisiaques. Il paraît que la baie d'Along aujourd'hui c'est une poubelle à ciel ouvert, alors que le lieu, géologiquement, historiquement, c'est merveilleux. Mais sauf que dès qu'il y a des poubelles, voilà, c'est directement à la mer et la mer, elle peut pas.
Mais c'est important de continuer, tu vois, tu parlais du tri et tout ça, et c'est important de continuer à faire ces petits gestes, parce que je veux dire, aujourd'hui, tu le vois, même si la manière dont l'agroalimentaire, c'est tu vois, c'est genre les carrefours, les trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a des trucs en vrac. Ils le font pas par conviction écologique, hein. C'est juste qu'aujourd'hui il y a une niche, il y a une donc au moins ça fait bouger des choses. Après évidemment que à force de bouger les choses, il y a des choses néfastes qui se passent sur la surconsommation. C'est le cartel de la drogue qui s'occupe, tu vois, des avocats et des qui gère tout ça sur les avocats du Mexique. Donc tu finances ça quand t'achètes tes avocats pour te faire ta salade de bobo et ton truc comme ça. Il y a pas de bon choix aujourd'hui, mais il faut faire en tout cas les choix qui sont liés aux convictions que tu as envie de défendre.
Je veux bien. Moi, en fait, ce qui m'embête, si tu veux, c'est, je veux qu'on arrête de culpabiliser les gens, en fait.
Mmh.
Les gens, quand tu achètes un pot de dentifrice, c'est jamais toi qui a décidé de mettre un truc de carton par-dessus. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
C'est jamais toi qui a décidé cette aberration extraordinaire. C'est que au rayon des légumes bio, c'est tous les, tu peux les reconnaître, c'est tous ceux qui sont,
oui, qui sont emballés mais oui.
Dans toutes les grandes surfaces, si tu veux un truc bio, vous comprenez ce que vous vendez ou pas ? Et en fait, c'est totalement accablant. Et j'ai vu passer sur Internet, je crois pas plus tard qu'hier, une paille en plastique, pardon, une paille en
inox.
Bois,
en bambou.
En bambou, enveloppée en plastique. Tu vois, collée sur le truc. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que vous vendez ?
C'est vraiment du plastique parce que tu sais, aujourd'hui, tu as des simili plastiques, soi-disant.
Ouais, alors je te pose.
Des trucs en forme d'algues et tout ça qui ressemblent à du plastique.
Je te pose la question, en tout cas, ouais. j'ai pas vérifié. J'ai vu l'emballage, je n'ai pas vérifié la composition, en effet.
Non, mais bon, dans le greenwashing, de toute façon, et dans tous ces trucs-là, t'as vraiment.
Mais en tout cas, c'est que les sous couvert de, je suis pas du tout un défenseur de la voiture électrique parce que c'est juste qu'on voit le rapport direct de tiens, il y a moins de fumée noire qui sortent, mais la pollution du changement d'un parc automobile mondial pour le transformer dans un autre parc automobile. Et donc les produits que ça nécessite d'exploiter, les batteries, les machins, et en fait c'est voilà, c'est que on fait miroiter des choses, mais bon, ça c'est un...
J'étais dans le Salar de Uyuni en Bolivie, c'est l'énorme désert de sel qui est absolument magnifique. Ils ont découvert des puits de lithium là-bas, et le guide avec qui j'étais m'expliquait, bah voilà, on a défini une petite zone qui va être exploitée pour faire des tests, pour voir un peu la richesse du lithium. Et je dis, mais en fait ça c'est ouvrir la porte au diable entre guillemets, dans le sens où tu fais ça, il dit non parce qu'on va limiter à ça. Tu dis, mais vous allez limiter à ça le temps, puis vous allez voir la thune que ça va rapporter,
et ils vont changer le centre-ville de place,
et
du coup...
et bon, et c'est, enfin c'est un lieu qui est ouais, improbable. On arrive à la fin de cette émission et je pense que c'est bien de s'arrêter sur cette note un peu plombante.
Ouais, c'est super.
Mais avant de se quitter, j'aimerais juste que tu puisses nous dire un peu quelques mots sur cet album lié au voyage, quand même. Parce que le but, c'est de faire une tournée en van.
Alors, pas exactement. On tourne en bus. En effet, l'album a vraiment été enregistré.
Lui. Ah oui, c'est ça, pardon. L'album a été écrit en van.
Il était écrit, enregistré dans un camping-car. On est parti sur les routes de France et on a vraiment écrit l'album, enfin enregistré, aussi bien au milieu d'une forêt que face à la mer. Et ça a été une expérience que je referai à tout moment. J'avoue que la voiture, le véhicule, en fait, a toujours été un élément moins important du voyage. Enfin, déjà, moi, le voyage lui-même, ça a toujours été un moment dans lequel j'ai écrit.
Un lieu de l'inspiration.
Totalement. Et Arnaud, qui vient de nous quitter, le chanteur belge, prenait des trains pour nulle part pour l'écrire. Je rêverais de faire pareil. À chaque fois que j'ai pu voyager dans ma vie, depuis tout jeune, que ce soit en avion, en train, le fait de voyager m'a toujours, toujours, toujours inspiré. Sur les rencontres, sur le truc. Donc ça a été un... Et à un moment, je me suis dit, mais en fait... Pourquoi pas enregistrer au cœur même de là où je suis inspiré. Et donc, c'est un album qui parle du voyage. Il y a vraiment des chansons qui sont précisément là-dessus. Parfois, les voyages sont plus des voyages aussi intérieurs, des voyages dans la relation, tout ça, des aventures, et d'où le titre de l'album. Mais on est parti sans savoir exactement où on allait. On a quelques points de chute qui ont dû changer. Parce que on est passé entre un moment, on a commencé, il faisait 14 degrés, on a fini, il faisait 41, tu vois, donc tu peux pas aller n'importe où.
Et pourtant, c'était sur une période de 2 mois.
Ouais, entre juin, je peux te dire que
juin,
il faisait vraiment ultra froid, et puis juillet, il faisait, c'était une canicule terrible, quoi. Ouais. Donc,
et le road trip, il passait par où?
En fait, on avait prévu d'aller vers la Bourgogne, vers le machin. On a fait la Normandie, on a fait dans les pays de la Loire, on est passé par le Poitou, la Vendée.
C'est un peu la route des vins, ça.
Alors, figure-toi qu'on n'en a pas profité plus que ça.
D'accord.
Plus que ça, on a été assez raisonnable de ce côté-là. Et en revanche, ça a été une expérience absolument fantastique. Ce sera à refaire, je ferai ça tout de suite. Mais en tout cas, j'aime voir le voyage défiler. Et puis, on pouvait vraiment profiter, tu vois, à écrire de ce côté d'aller dans un endroit que tu découvres, que t'as pas prévu, te faire surprendre. Ouais. On s'est retrouvé dans des endroits vraiment chouettes, voilà, et on a vécu déjà une aventure entre nous. On était 4 dans le van et ça a été très fort. Et
vous dormiez pas dans le van?
Si,
par rapport. Ah oui, vraiment, ouais, totale ouais. Autonomie.
Tant non, mais non, ouais. Ça a été vraiment une. Ouais, mais non, ça a été absolument fantastique, ouais.
Avec
absolument.
Tous les instruments, tout le matos d'enregistrement, mais on le van, c'était un car.
C'est un camping-car.
Ah
ouais. C'est un camping-car. Un camping-car, il fallait gérer. Il y avait un régisseur qui faisait la route, qui conduisait, ouais. Qui choisissait les endroits pour arriver à avoir cette vie normale.
Vous aviez repéré un peu des lieux en amont.
Oui, mais sauf que ça a dû changer encore une fois à cause de changement de plan. Il y a une vraie improvisation. Et parfois, on restait plus longtemps que prévu parce que l'endroit était incroyable. Et ouais, non, c'était. On est allé chez des amis aussi, on a fait étapes chez des gens. Ça a été, franchement, je te dis, aujourd'hui, je rêverais qu'une chose, c'est de refaire la même chose, l'aventure 2, de repartir. Mais
déjà, où est-ce qu'on peut écouter l'aventure 1?
Ah bah l'aventure 1, je pense que malheureusement aujourd'hui il faut dire sur toutes les plateformes, etc. Ouais. Si vous voulez vraiment être sûr de pas ne pas me filer dessous, allez sur toutes les plateformes. Et sinon, pourquoi pas, si vous avez encore des choses pour écouter de la musique,
l'album existe.
Achetez-le,
sinon,
téléchargez-le
sur les plateformes, mais achetez l'objet qui est beau.
L'objet, et notamment
même si ça va à l'encontre de la consommation, mais c'est ça le paradoxe.
Oui et non. L'objet, mais encore une fois, c'est que le disque c'est fait pour écouter et réécouter. Donc ouais. Normalement, alors que faut voir comment tu consommes, mais aller sur toutes les plateformes, ça fait fonctionner d'autres choses, des ordinateurs à distance, etc. Donc aussi, on peut débattre là-dessus, mais en tout cas, le disque est très beau. Moi, je suis très très fier de cet album. C'est un album qui compte vraiment et puis qui a une vraie histoire, qui est associée à des endroits, à des gens, je suis très heureux plus de la porter, évidemment, d'aller en tournée pour parler de cet album, ce voyage une deuxième fois. Ouais.
Il y a déjà, on peut retrouver sur tes réseaux sociaux aussi, on peut te retrouver toi, Old Olaf, sur Instagram, Facebook.
Oui, c'est ça, toutes ces choses-là. Donc, c'est plutôt des gens qui s'occupent de ça pour moi que.
C'est pas toi qui réponds directement aux messages.
Ça arrive, mais c'est que c'est pas dans les réseaux sociaux que je me sens le plus à l'aise, en effet. Ouais. Je préfère la vraie vie.
C'est drôle, souvent, les gens qui sont justement le plus versés sur l'humain, sur tout ça, sont très vite. Au sens, j'allais dire, des handicapés des réseaux sociaux, mais tu vois, dans le sens noble du terme.
Ouais, ouais.
T'as envie de vrai contact, t'as envie de vrai... Ouais,
j'ai du mal avec la notion d'ami sur Facebook ou sur Instagram.
Je comprends. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de s'abonner pour suivre tes actualités.
Oui, il faut le considérer comme un journal d'information. Ouais,
ouais. Ouais. Et il y a des dates là, les prochaines dates, c'est où ?
Eh bien écoute, je ne sais pas quand on saura diffuser ton podcast. Mais...
Dans 3 semaines.
Voilà, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse date parisienne au 14 juin en Trianon.
Ah bah super.
On fêtera notamment les 10 ans de l'album Le Monde est beau et la Tristitude, mais en fait on est encore nous un peu partout en tournée avec l'aventure. Voilà, il y a un autre spectacle en train
d'arriver. Oui, avec Arnaud Joyet, j'ai vu qu'il y avait un...
Qui s'appelle Tracker de Nazi.
Le nom.
c'est aussi un spectacle sur le voyage, figure-toi.
Génial.
Et en tout cas, il y a beaucoup de spectacles, mais voilà, il y a toute une tournée. La date importante parisienne, ce sera en effet ce Trianon, mais en tournée, il y a des festivals cet été et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir justement.
Connecté. Old Olaf, on retient le 14 juin, donc au Trianon. Mm-hmm. Ça, c'est la date importante. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour ta sincérité. Pour cette belle humanité, ces belles anecdotes.
Merci pour ton fruit.
Drogue et sexualité.
C'est ça.
On a passé un bon moment, vraiment. Je te remercie, passe une très belle journée. Et
très
puis à très bientôt, au revoir tout le monde.
Salut.
Au revoir et à très vite.